Mes ingénieurs et le cygne couvant. Dès le 1er juillet 1988, diplôme en poche, j'étais embauché dans une ingénierie proche de Genève en tant que secrétaire réceptionniste. À l'insu de tous, je me donnais environ un an pour y travailler avant de réaliser mon projet monastique. L'entreprise ne comptait qu'un élément féminin à part moi, une secrétaire, perdue parmi une vingtaine d'ingénieurs et dessinateurs de nationalités très diverses. La secrétaire, femme grande, blonde et distinguée, m'accueillit royalement avec une justesse d'attitude que j'ai rarement rencontrée. Avec elle, la relation était optimale. Avec mes collègues masculins, je me débrouillais pas trop mal, tout en préservant jalousement ma vie privée. Assez rapidement, outre des jeux de mots appétissants sur mon prénom, je fus affublé de sobriquets qui n'étaient pas désagréables à entendre. La Terreur, Calamity Jane, la Miss, Mademoiselle Bureau S, et enfin celui qui chatouillait le plus délicieusement mes oreilles sans qu'il le sache, Jeanne d'Arc. Cela donna un jour lieu à une scène digne d'une anthologie cinématographique. À mon arrivée un matin, un collègue clama: Planquez-vous les gars, v'là la Terreur qui arrive. Fais attention, cow-boy, tu parles à une dame, répondis-je du tac au tac, d'une voix rauque, l'air menaçant, la tête dans les épaules et les mains sur d'invisibles pistolets. Pourtant, je veux bien être pendu si 2 secondes avant, je pensais à Calamity Jane. Ce genre de réaction théâtrale opportune, encore un peu et j'aurais fait semblant de chiquer, me valut un succès populaire qui ne s'est pas démenti. Mais très vite, je me demandais s'il était possible que la vie dans un tel contexte soit réellement suivie de l'entrée au Carmel que j'espérais tant. Cela semblait si irréel. Dès le premier mois, un signe me fut donné. J'étais chargé d'aller apporter le courrier, une pile imposante de lourdes enveloppes chargées de plans, à la poste de l'endroit. Sur mon trajet, je devais passer par une sorte de grande place où se tenaient les marchés. À la craie, sur le sol, un mot était tracé. Couvent. Évidemment, j'ai pensé que l'inscripteur avait voulu écrire couvert. Mais le fait est qu'avant le T, c'était bien la lettre N qui avait été écrite. Je le vérifiai soigneusement. Je regardais aux alentours, sur 50 mètres environ, pour savoir si le sol portait d'autres mots. Non, je n'en voyais aucun. J'en tremblais presque d'émotion. Mon travail d'alors me plaisait pourtant, et, ou parce que, je me sentais apprécié, comme je l'ai dit. Plus sans doute qu'il n'aurait fallu. J'étais frappé de constater comme le regard masculin sur moi s'était modifié depuis mon changement de look. Tout au long de ma scolarité, les garçons m'avaient en effet laissé tranquille comme une sorte de quantité négligeable. Il est vrai que je me tenais à l'écart des situations dangereuses, ne liant d'amitié qu'avec les camarades de classe les plus studieux et les plus respectueux. Maintenant cependant, depuis que je me maquillais un peu, que je revêtais un tailleur et osais me percher sur des hauts talons, que je me parfumais légèrement, j'étais plutôt confronté au problème contraire. Cela se traduisit un jour par une scène dont je ris encore. « Bonjour, » lança le don Juan du bureau, de sa voix la plus grave et la plus chaude, en franchissant la porte. Il était habillé avec une élégance recherchée, toute méditerranéenne, et son parapluie était assorti à son costume. De mon poste, à 4 mètres de distance, je sentais un parfum capiteux nouveau, pas désagréable, qui me susurra le mot « méfiance, il y a un piège ». Le bel athlète longea ma réception en faisant glisser négligemment sa main sur toute la longueur de la banque. Il émit quelques grognements graves en me regardant avec des yeux qui brillaient sous des paupières mi-closes. Il balaya avec grâce ses mèches soyeuses et les rangea derrière son oreille. Sans raison apparente, il s'étendit sur le canapé de cuir qui faisait face à la réception et commença à bâiller avec des rugissements léonins, à faire rouler sa musculature membre après membre en s'étirant avec soin, tout en prenant bien son temps. Je le laissai faire, en affichant le flegme le plus parfait et en continuant à taper à la machine. Puis je lui lâchai sur un ton faussement naïf et compatissant « Mon pauvre, qu'est-ce que tu as l'air fatigué, toi? Tu ferais mieux de dormir la nuit. » Je n'ai jamais su si cette mise en scène bouffonne était un simple canular ou s'il espérait réellement parvenir à un résultat avec moi en utilisant des méthodes aussi lourdes. Du reste, je n'étais pas folle au point de lui accorder la moindre confiance. Il multipliait les conquêtes féminines jusqu'à affirmer que s'il devait emmener en balade toutes ces femmes ensemble, il lui faudrait pour le moins un quart. Il n'arrivait déjà plus à connaître le nombre exact de celles qui s'étaient livrées à lui, et il avait oublié le nom ou le visage de certaines. Il avait même couché avec de vieilles femmes sans attrait à cause du délire bien alcoolisé d'un soir et reçu de l'une d'entre elles, qui était riche, une montre de luxe qu'il exhibait devant nous, pensif. Parti en vacances avec un autre collègue dragueur, ils avaient parié à qui aurait le plus de filles durant le séjour. Je me sentais, je l'avoue, pétrifié d'horreur et de dégoût. Ainsi, les femmes n'étaient pour eux qu'un gibier valorisant leur ego. Si son coéquipier en libertinage me confiait être attiré par les jeunes filles de bonne famille à la queue de cheval, c'est manifestement parce que les autres n'étaient plus pour lui que des numéros et des proies trop faciles. De façon très prévisible, le Don Juan numéro 1 m'avoua ne plus croire à l'amour. À mon sens, c'est le terrible châtiment de ceux qui jouent avec lui. Il suffit de regarder autour de soi. De tous côtés, on voit ces personnes rouler de la sensualité dans le désespoir le plus complet, essayant de noyer cette angoisse de fond dans des expériences sensuelles inédites où toutes les barrières morales et raisonnables sont renversées de façon croissante dans une logique infernale. Expérience de chute dans un puits sans fond. Craignant à juste titre de devenir la victime d'un pari insensé suivant un pot trop arrosé, je me gardais bien de révéler mes aspirations les plus nobles et l'absence de tout petit ami terrestre. Aux questions directes sur ce sujet, je répondais par de grands éclats de rire ou par des propos ironiques qui pouvaient laisser croire tout et son contraire. Ainsi, si la secrétaire avait saisi ma nature profonde et se proposait de défendre ma pureté contre les affreux, l'un de mes collègues me prenait pour une courtisane de haut vol. « C'est une professionnelle, les gars, je vous dis.